Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC. RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
L'after est là jusqu'à 1h du matin, comme tous les soirs évidemment, en direct de notre studio du Qatar. On a une sorte de duplex organisé avec Daniel Riolo et Stéphane Guy à Paris, moi au Qatar avec nos invités, Richard et là, Benjamin est là. Et on a même Michel qui nous rejoint, qui est originaire de Pologne, mais français.
C'est ça, tout à fait.
Très bien, là, tu as donné ton avis sur la Pologne tout à l'heure. Nous confirmer peut-être l'avis de Daniel qu'il va développer dans quelques minutes ou pas. Mais d'abord, on finit avec Johan sur le quart de finale. Toi, la confrontation Argentine-Pays-Bas, Johan, comment est-ce que tu la vois? Est-ce que tu as l'impression que l'Argentine est au-dessus? Enfin, je sais pas, ton ressenti, et on en dira tous un mot là.
Bah, moi, ce que je vois des deux équipes, c'est quand même des équipes qui sont pas sur des rythmes très élevés depuis le début de cette Coupe du Monde. Donc, je sais pas ce que ça peut donner en termes d'intensité sur un quart de finale. Si j'en juge par ce que je vois, j'imagine une rencontre assez fermée, parce que j'ai pas l'impression que Van Raal va changer.
Ouais, tu vois pas un match à but, quoi.
Non, c'est différent. Match à but et match ouvert ou fermé, c'est différent parce que t'as des joueurs qui, sur une action, peuvent faire la différence. Évidemment, côté argentin, on pense à Messi. Côté néerlandais, on peut penser à Memphis Depay ou à Cody Gakpo. Quand vous regardez les buts de Gakpo dans cette Coupe du Monde, il y en a deux qui sont pas construits. C'est juste, il sent bien le ballon piqué de Young et il devance Mendy. Et l'autre, c'est une frappe du gauche qui sort un peu nulle part au ras du poteau. Donc, c'est pas forcément des actions très construites. Donc, ça peut être un peu différent. Tu peux avoir des buts avec des exploits individuels, en fait. Je pense que la clé va être dans la récupération du ballon et dans la gestion des transitions de l'adversaire. Parce que finalement, ces deux équipes se ressemblent, je trouve. À chaque fois que je les ai vues jouer, l'Argentine, je la trouve vraiment en danger sur les transitions. Et les Pays-Bas, c'est la même chose. Donc comment ils vont gérer ça? Comment, avec des milieux de terrain très différents, avec des profils très différents au milieu de terrain, quand tu vois un De Paul et quand tu vois un De Jong, c'est vraiment pas la même chose. Et voilà, je trouve que c'est très ouvert finalement, dans le sens où c'est toujours un peu bateau les trucs de favoris et tout, mais je vois pas une équipe qui se dégage plus que l'autre par rapport à son parcours jusqu'à présent de ce début de Coupe du Monde. Je vois pas une équipe qui impressionne, j'en vois pas une qui est bien meilleure défensivement, une qui est bien meilleure offensivement, une qui gère mieux ses temps faibles que l'autre, une qui gère mieux ses temps forts que l'autre. Il y a pas d'individualité qui est ressortie de manière extraordinaire, hormis Gakpo d'un côté et Messi sans doute de l'autre. Mais en dehors de ça, j'ai deux gardiens qui sont capables de faire des très bonnes choses aussi des deux côtés. Donc, je vois une équipe. En tout cas sur le papier, je vois ça comme une rencontre très équilibrée et où il est assez difficile de prédire ce qui va se passer et qui va sortir gagnant de cette rencontre.
Ça y est, j'ai trouvé. J'ai confondu avec Arrascaeta, l'Uruguayen qui joue au Brésil. Voilà. Et puis tout à l'heure, je cherche. Je me dis, c'est pas possible. C'était lui. Bon, sur le quart de finale, vous êtes d'accord avec ce que dit Johan, Daniel?
Assez. Franchement, je dégage pas un favori dans ce match-là. Là, on rentre réellement dans le dur des grosses nations du foot qui s'affrontent. Oui, effectivement, Memphis, le petit jeune d'un côté, Messi et Alvarez qui est en feu. Oui, c'est ça. C'est plutôt au niveau des individualités, des actions. Les équipes nationales, tu peux pas, dans une Coupe du Monde, tu peux pas dire, parce que t'as pas l'habitude de la voir contre des gros. Le problème, c'est que maintenant, dans les qualifs, c'est plus des références. Il y a pas de référence sur le jeu des équipes nationales. C'est un peu comme si tu les vois tous les deux ans, tous les quatre ans en Coupe du Monde, mais tu les as pas vus avant dans des parcours où tu sais comment elles jouent, où tu sais comment elles font face à telle ou telle adversité. Donc, t'as très peu de références. Souvent, les joueurs qui ont démarré les qualifs, c'est pas ceux que tu retrouves titulaires à l'arrivée, ou c'est pas le même état de forme des uns des autres. Il peut y avoir un ou deux blessés. C'est de plus en plus compliqué de mettre des vrais jeux collectifs en place. Donc ça se joue, ouais, à la façon, même l'intensité. C'est pas des matchs où tu mets une énorme intensité comme les matchs de Ligue des Champions qu'on a l'habitude de voir. Hein. Donc ça peut être un match équilibré qui se joue sur une ou deux actions, celle qui va effectivement le mieux profiter des phases de transition. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que je le vois. Je pense que les Argentins vont avoir le ballon puisque les Pays-Bas ont décidé de plus l'avoir maintenant.
Bah, s'ils le font contre les États-Unis, il n'y a pas de raison que ça change, en effet.
Effectivement. Donc, ils vont laisser le ballon à des Argentins qui vont surtout tout faire pour éviter de le perdre, pour pas se faire prendre dans les transitions que redoute pour les Argentins Johan. Et voilà. Et ça va se jouer là. On pourrait, pourquoi pas avoir, comme la dernière fois, une prolongation ou un truc comme ça. Hein. Ça peut être très serré, ouais, et un peu fermé. Effectivement. Et
Stéphane, ton avis? Ah, on t'entend pas.
Je trouve que le facteur Messi est le facteur X de ces matchs à élimination directe et que c'est très prometteur pour l'Argentine. Quoi. Ce qu'il montre là, c'est ça doit donner une confiance énorme aux autres. Quoi.
Et les Argentins font tout pour qu'on pense exactement ça, ouais. À savoir que ça doit ressembler, puisqu'ils sont que dans la mystique, que ça doit ressembler à Maradona des années 80. Quoi. C'est-à-dire, on est là, on va tous se défoncer et on attend ton geste. Ouais. Et on attend que ce soit toi qui d'ailleurs...
Et le geste vient.
Il y a encore une déclat, je ne sais plus quel joueur a dit ça à la fin du match, les Argentins.
Molina. Jean.
Hein ?
Molina.
Oui, genre, on a toujours l'as dans notre manche. Ça. Bon, ouais. Ben voilà, c'est ça. Voilà.
Bon, il y a avec la perspective d'un Australie-Brésil en demi-finale, bien sûr. Pourquoi pas. Oui, Johan.
Argentine-Brésil, ouais. Il y a peut-être une donnée à prendre en compte, c'est que pour la première fois, il va y avoir 5 jours pleins de repos pour les deux équipes qui ont beaucoup enchaîné, là, parce que c'est la première Coupe du Monde où il y a aussi peu de jours de repos entre deux matchs de phase de groupe.
Oui, parce que c'est vendredi le match.
Ouais, vendredi, mercredi soir, le quart.
Non, vendredi.
Vendredi, là on est dit, on est samedi, c'est là, vendredi samedi. De la semaine,
là, vendredi
c'est
vendredi qui vient. Le match.
Là on est samedi. Oui, le quart de finale, oui, exactement, parce que mercredi, pardon, il n'y a pas de match et mardi soir, ça termine les huitièmes. Vous avez raison. J'ai trouvé ça très étonnant qu'il y ait autant d'espace pour eux, quoi, là. C'est très, un peu bizarre, non?
Bah, d'ailleurs, Vandra a donné journée off à ses joueurs demain. Donc, il a dit, je pense qu'il y en a certains qui commencent à en avoir marre de me voir. Donc, demain, je ne veux pas les voir, ils font ce qu'ils veulent.
C'est un gros atout pour ces équipes-là, pour la suite du tournoi. C'est que là, ils ont en plein cœur du tournoi d'avoir 5 jours là. Donc effectivement, la petite journée qui va bien, tout le monde peut se détendre. C'est très très important.
Bah, tu sais, le Portugal par exemple,
le Brésil qui va jouer mardi, je crois, le Brésil et qui va rejouer donc le dimanche. Hein, c'est ça.
Le Portugal ou l'Espagne ont la même chose là entre leur dernier match de poule et leur huitième en fait. Hein.
Oui, en fait, les trous ont été dispatchés pour que tout le monde en profite à un moment.
Mais je pense que c'est mieux. Moi, je pense que c'est mieux d'en disposer entre le huitième et le quart.
Ouais.
Bah, ça dépend qui tu joues évidemment en huitième. Mais là, pour les Néerlandais, c'était parfait.
Merci, Johan.
Merci à vous, messieurs.
Salut, bonne Johan. Soirée, à très vite. Bonne Allez, on passe à l'équipe de France, les gars. Demain, un match contre la Pologne à 16h. Bon, alors la compo, on annonce le 11 de départ du Danemark. C'est ce qu'on peut appeler l'équipe type, quoi, de la Coupe du Monde, en quelque sorte, les gars.
Une équipe type, on est d'accord, qu'on n'aurait pas donné à 100% il y a encore 3 semaines avant le début de la Coupe du Monde.
Ah non.
Ben voilà, c'est dire comme à chaque fois, on cherche à trouver des références à des équipes, alors qu'on est en train de parler d'équipe.
Bon, il nous manquait qui, Daniel? J'avoue que j'étais parti sur Fofana plutôt que Dembélé, mais sinon l'équipe elle était. Et puis si Koundé Pavard,
mine de rien, ce que t'as dit sur Dembélé Fofana, ça change tout le visage de l'équipe.
On espérait un peu
nous les trois attaquants, mais attention, ça change absolument tout.
Et la défense centrale, les gars, il y avait aussi une incertitude, on savait pas si Varane allait être prêt.
Donc c'est dire que si chercher des références quand on est dans un tournoi, c'est souvent vain. On perd du temps.
Oui, non, puis il y a eu Lucas Hernandez. Finalement, quand on réfléchit bien, il y a eu quand même 4 sur 11, donc ça fait quand même
avec un tiers de l'équipe. Lucas Hernandez, on se retrouve avec une équipe ultra offensive parce que t'as Théo Hernandez sur le côté qui va arpenter les allers-retours. Donc c'est bien la preuve que les références pour les équipes dans les grandes compètes comme ça, faut vraiment, faut, en fait il y en a pas.
Mais autant si tu veux,
ne nous cassons pas la tête.
Autant en 2018, il y a eu changement de 11 parce qu'il y a eu un vrai loupé, un match raté qui a entraîné une nouvelle réflexion. Autant là, c'est pas le cas. Là, tu t'adaptes à des circonstances de blessés, de retour. Varane, il revient de blessure, mais bon, c'était évident. Lucas Hernandez, ben il y a pas le choix. Il y a que le cas Pavard qui était pas très identifiable, quoi.
Et Deschamps adore avoir des choix contraints. Ouais, parce que ça évite de se casser la tête sur les stratégies. Et l'un des plus grands exploits de sa carrière, il l'a fait avec des choix contraints.
C'est-à-dire
le match retour Monaco-Real.
Ah oui.
Où il est contraint de faire un choix totalement différent.
Attends, parce que... Si on va au bout de ta réflexion, il a fait exprès de ne pas prendre de latéraux, alors en se disant comme ça, non, de toute façon, j'aurais...
C'est pas ça que je suis en train de dire, il n'a pas fait exprès. Oui. À l'époque, dans ce match-là, si je me souviens bien, il doit avoir deux expulsés, Bernardi et Zikos, qui étaient deux joueurs clés pour lui. Et ça l'oblige à faire une équipe qui est complètement différente et bien plus offensive avec les joueurs qu'il a. Et il fait l'exploit.
Allez, on enchaîne avec justement l'avis de Daniel sur le match de demain. Jingle Riolo, s'il vous plaît.
Ça m'écorche la bouche de dire Messi, phrase, Messi, virgule, il est nul. Mais il est nul. Alors, c'est Daniel, à chier.
Pour moi, c'était pas avec l'Argentine, c'était avec le PSG. Hein,
ouais, évidemment. Évidemment.
C'était pas cette année non plus, hein, on a compris.
Donc, oui, tu voulais donner un avis sur le match de demain et son issue.
Effectivement. Mais alors, je voudrais quand même démarrer avec une petite introduction. C'est que je me souviens l'année dernière. Avant le huitième de finale, sur BFM, autour d'un plateau,
je disais
exactement la même chose, à savoir que il y avait rien qui pouvait permettre d'envisager une défaite des Bleus. Ça s'est terminé comme ça s'est terminé, et je vais exactement dire la même chose aujourd'hui.
Ah mince.
Il n'y a rien. mais parce qu'on fait pas du pronostic. On analyse des forces en présence, on essaye d'envisager ce qui peut se passer dans un match. Après, que le football soit parfois magique, bah, c'est justement aussi pour ça que ce sport est à ce point populaire. C'est que ce qu'il y a sur la feuille, parfois, termine à la corbeille à papier. Mais a priori, et exactement comme dans ce France-Suisse, tout fait penser à balance du côté des Bleus. Exactement comme quand tu mènes 3-1 dans un match à 8 minutes de la fin, c'était, je ne sais plus exactement. Ça n'arrive jamais, normalement, que tu te fasses reprendre et que tu ailles perdre au péno, même si les Bleus avaient abordé ce match complètement à l'envers. Donc je veux bien qu'ils l'abordent à l'envers demain et qu'il y ait un scénario aussi fou encore. Pourquoi pas, le foot propose ça. Mais a priori, on ne peut rien redouter de ces Polonais parce que les individualités, elles sont toutes moins fortes. Tactiquement, on a une équipe qui va refuser le jeu et qui en plus l'assume, parce que cet entraîneur-là le dit, il aime faire ça, qu'on a a priori les joueurs pour percer justement ce genre de défense-là. Si on y était allé en mode « on met que deux attaquants », j'aurais pu envisager le match fermé où on se tape la tête dans un mur et ça se termine mal. Mais si on y va avec Mbappé, Dembélé, bon... Il y a quand même moyen de transpercer cette défense, même si elle est rodée, même si elle adore faire ça, même si elle adore couler le béton, tu vois. Bon, donc effectivement, parce que tactiquement on est mieux, parce que techniquement on est mieux, parce que nos individualités sont au-dessus, ça doit être un huitième de finale sans histoire, qui doit permettre aux Bleus de se qualifier pour le quart de finale. Il ne reste quoi à la Pologne? Qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste la magie du foot, l'incertitude, le 0-0 jusqu'au bout, le but. On a bien vu tout à l'heure des Australiens qui n'ont absolument rien fait dans le match, mettre un but sans cadrer la frappe. Bon, ok. Si à ce moment-là, les Bleus ne mènent que 1-0 et qu'ils se prennent un but comme ça et qu'ils réussissent à se faire traîner à la prolongue,
c'est la maladresse qui est le seul danger des Bleus demain, c'est la maladresse.
Mais comme encore en plus maintenant, il y a ce qu'on appelle le temps effectif, ça rallonge les matchs et ça permet moins aux équipes de truquer, de faire traîner un match et finalement de mettre des temps morts dans un match. Parce que ça aidait les équipes inférieures. Mais les équipes inférieures peuvent plus tellement faire ça parce que maintenant elles se voient avec des temps additionnels à rallonge, qui peuvent permettre à des équipes supérieures d'aller faire la différence.
Stéphane, Est-ce voilà. que tu es d'accord avec Daniel?
Ah oui, complètement. Complètement. Non, non, moi, c'est pareil. Je cherche des raisons d'avoir peur, mais il n'y en a pas. Voilà. Et je vais te faire un petit, partager quelques secrets de fabrication. Quand on commente des matchs de foot, comme j'ai fait pendant tant d'années, on fait la fiche du match la veille. Et donc, on met toutes les données possibles et inimaginables sur une feuille en carton. Voilà. On essaie de passer les deux équipes au crible. Et en général, on a quand même un avis. On a un avis assez précis de ce qui peut se passer, quoi, le lendemain. Mmh. Et si je jouais sur les matchs que j'ai commentés, j'aurais souvent gagné. Pas toujours, hein, loin de là. L'exemple le plus extraordinaire, évidemment, c'est ce PSG-Barça où l'affiche du match la veille, si on s'était parlé la veille, je vous aurais dit c'est impossible que demain le PSG ça se retourne. Donc ça, c'est l'histoire du foot. Ça arrive malgré tout. Mais là, effectivement, avoir un France-Pologne, quand on passe au crible, les deux équipes, le parcours, les historiques, les forces du moment, il y a zéro alerte rouge pour les Bleus, zéro. Et c'est peut-être ça le danger, peut-être, mais j'y crois pas. Je pense que demain, moi, j'aurais peut-être pas dit tout à fait. J'aurais dit à peu près ça face à la Suisse, mais la Suisse avait quand même des vrais arguments et avait montré des choses.
Tu fais bien de rajouter
là,
ça.
La Pologne, je n'ai rien vu, quoi, vraiment. Alors bon, peut-être que demain, on va avoir une révélation, mais je pense à un duel comme ça, parce que c'est Batikash contre Kylian Mbappé, et je pense que ça peut être une boucherie.
C'était plus
je prends des risques, voilà, ça te fera peut-être un jingle dans une semaine, hein, mais
pour que ça fasse jingle, il faut quoi? Que la Pologne se qualifie et qu'en plus Cash marque un but?
Ouais, que Cash mette
un petit pont Mbappé
sous le boisseau, ouais, ça j'y crois pas.
Alors comme on a un franco-polonais autour de la table, t'es d'accord? Est-ce que t'entends là, Michel?
Bah oui, on a regardé tous les mêmes matchs, hein, donc malheureusement. La Pologne, on a vu un très grand gardien. Ils ont forcément un super attaquant qui est jamais servi, qui est vraiment tout seul devant.
Entre les deux, c'est le problème.
Entre les deux, il y a rien, quoi.
Ils disent que demain, ils veulent le mettre à deux. Ça peut-être que ça peut être un changement.
À deux quoi? Deux attaquants.
Qu'il y ait enfin quelqu'un autour de lui.
On n'a pas vu Zielinski, alors que ça doit être une...
Et s'ils font le match que fait l'Australie ce soir contre l'Argentine, même si je pense que la France sera beaucoup plus inspirée que l'Argentine, avec deux lignes de quatre, avec une telle... Ils sont capables, hein, d'avoir cette discipline-là, etc. Et que les deux devant, effectivement...
Les deux demi-ballons qu'ils vont avoir
ils
en mettant...
Ils seront meilleurs que les deux Australiens qu'on a vus là. Mais voilà,
il est en train de faire un scénar de trouille.
Mais j'y crois pas une seconde.
Zielinski et Lewandowski, ça peut faire la diff, tu dis.
Ah bah, c'est pour le coup deux très bons joueurs.
Bah, sur le papier, c'est joli, quoi. Mais c'est vrai que de ce qu'on a vu, il n'y a pas grand-chose pour l'instant.
Batikash, qui n'est pas de la famille de Batikash. Hein.
Non. Ni non, Tabata non plus.
Ni Tabata.
Le problème qu'on a en ce moment, c'est que...
c'est pas la même référence.
Bravo, Daniel. Chacun ses références, hein, culturelles.
Richard et Benjamin, vous en dites quoi? Vous êtes d'accord?
Alors évidemment, on sera au stade demain. Moi, je pense que ça va jouer sur l'implication. Si Didier fait son job, s'ils arrivent impliqués, il y a pas photo. Ça va être une boucherie.
Ils arrivent en claquette. Sur la 8e de Coupe du Monde.
J'étais à France-Tunisie. Ce match était une honte absolue. C'était incroyable. Aucune implication. Là, ça va se jouer sur l'implication. Si on est présent.
T'inquiète, Dizazi sera pas latéral demain.
Voilà. Ici, il n'y a pas Dizazi, pas Fofana et pas les deux Marseillais. On s'en sort. le reste, c'est l'implication.
Le mec du PSG, regarde-le, là. Il y a l'extérieur du PSG.
Non, mais franchement, Veretout, qu'est-ce qu'il fait en équipe de France? Je veux dire, on va pas se mentir.
Oui, bon, Verratti, pas français, excuse-moi. Tu
peux pas... voilà. Donc, l'implication, on veut de l'implication, on veut des attaques, on veut que ça flamboie, et on veut montrer au monde qu'on est là. Voilà.
Benjamin?
Moi, cette équipe de France, elle me plaît carrément. Tout bêtement, parce qu'aujourd'hui, on a Giroud qui répond présent, on a Mbappé qui a des jambes de feu, on a aujourd'hui une équipe qui est beaucoup plus impliquée. Je pense que le fait qu'il y ait autant de blessés, ça leur a enlevé une certaine pression. Et par rapport
Ne dis pas ça à Benzema, hein.
Ouais.
Ou aux gens qui l'entourent.
Mais aujourd'hui, ils ont su s'adapter. Je trouve en effet qu'il y a plus de combativité. Oui. Clairement. Et c'est ce qui fait la différence, hein. Si la Suisse revient, c'est parce que peut-être qu'on avait manqué de concentration. Là, ils sont clairement impliqués. En plus, il y a l'historique qui va faire qu'ils vont éviter de réitérer les mêmes erreurs. Non, moi, franchement, je suis.
Bref, ça commencera en quart de finale contre l'Angleterre.
C'est ça.
Ah, là, voilà. Par contre, ça va pas être pareil, ouais.
On va déjà passer la Pologne.
Les Anglais, c'est pas fait. Hein. Je préfère être dans la position de jouer la Pologne que le Sénégal. Hein.
Alors c'est demain soir d'ailleurs. Hein. On en a pas encore parlé. Ouais. Toi qui es un fin connaisseur du foot anglais, tu doutes là ce soir. Tu vas aussi nous faire le scénario de la peur.
Non, moi je suis pour l'équipe de France. Hein, n'ayons aucun. j'ai pas de double équipe. Mais je pense que c'est très bien ce que fait l'Angleterre. Vraiment, je trouve que c'est très sérieux, très carré. Mais je pense que jouer le Sénégal. Le Sénégal, c'est une équipe qui peut te mettre le feu, où tu maîtriseras pas. Tu maîtriseras forcément pas tout dans un match contre le Sénégal. Donc ça va être c'est un gros match. C'est des 4/8 là qu'on a vécu. C'est le plus incertain. Entre les deux qu'on a vu aujourd'hui et les deux qu'on verra demain, c'est là où il y a le plus d'incertitude.
Oui, dit comme ça, oui, vu les affiches qu'on a vues jusque-là, oui, on va dire que le.
Il n'y a pas beaucoup de huitièmes très incertains quand même. Celui-là, en
mais état. J'ai néanmoins du mal à imaginer, ils peuvent leur poser des problèmes, mais j'ai du mal à imaginer que l'Angleterre n'aille pas en quart contre la France, qu'on n'ait pas ce quart qu'on attend. Quoi.
On n'a jamais eu d'ailleurs, je crois, en Coupe du Monde, dans un match à élimination directe.
À élimination directe, en France-Angleterre, ça ne dit rien du tout.
Ouais, France-Angleterre 82.
Espagne. Oui, mais c'est un premier match. C'est un match de poule.
Ça va être la dernière fois d'ailleurs qu'on les a joués en Coupe du Monde, donc peut-être la seule fois. Ouais.
Après, en poule, tu les joues aussi à l'Euro 92, mais c'est un match de poule, pareil. Non, je vois pas de trace de France.
2004, match de poule.
C'était quasiment un huitième de finale, le 2004.
Oui, c'est vrai.
Et en 2004, c'est aussi à poule, hein, le coup franc de Zidane.
C'est le premier match. Effectivement, tu avais la Croatie et la Suisse, dans le groupe.
J'étais à France-Angleterre, c'était à Lisbonne. 40 000 Anglais dans le stade, on était très peu de Français.
C'est pas le malin, j'y étais aussi.
C'est
encore un match de poule.
C'était incroyable.
Avec Thierry Henry qui va obtenir le péno, rappelez-vous, en toute fin de match. Bon, bref. Voilà pour cet avis. Dans un instant, l'avis de Stéphane. Et puis l'actu des Bleus, je vous donnerai quelques infos dans quelques instants. Parce que oui, j'aimerais votre avis, vous n'étiez pas là hier soir, Daniel et Stéphane, sur le financement de l'arrivée des familles des joueurs. C'est intéressant.
Je pensais que tu allais parler du maillot du club formateur de Guendouzi.
Non, on l'a fait hier, ça. Il y a un petit rebondissement aujourd'hui, il faut aussi en parler. À tout de suite.